La prédication d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des deux dernières que j'ai faites, où nous avons parlé de notre identité. Et j'aimerais faire quelques rappels ici, pour les personnes qui n'étaient pas là, ou en tout cas ça fera des rappels pour les personnes qui étaient là les 25 janvier et 1er février. Déjà le 25 janvier, nous avons vu que l'être humain trouve son identité en référence à quelqu'un ou à quelque chose. Et avant l'entrée du péché dans le monde, en Genèse au chapitre 3, l'identité de l'être humain découlait de cette relation que l'être humain, Adam, avait avec son Créateur. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a eu l'entrée du péché dans le monde. L'être humain a été chassé de la présence de Dieu, et la relation avec le Créateur a été meurtrie, et l'être humain s'est alors mis en quête d'identité. Qui suis-je ? Et nous sommes tous finalement tentés de rechercher, de partir en quête d'identité, essentiellement, et s'il fallait résumer, dans quatre domaines. Dans l'acceptation, l'approbation des autres, est-ce que je suis aimé par les autres ? Dans le regard de la société, est-ce que j'ai de l'importance aux yeux des autres ? Dans nos réussites, est-ce que je suis quelqu'un de compétent ? Et puis aussi dans la contribution de notre passé, de notre vécu, et qui fait souvent aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que je suis condamné par mon passé, et peut-être en particulier par les péchés que j'ai pu commettre ? L'écueil qu'il y a dans cette quête d'identité consiste à penser que nous pouvons trouver notre identité en dehors ou ailleurs que dans une relation avec Dieu, notre Créateur, qui est complètement absent ici, dans ces quatre domaines. Mais, parce que là aussi il y a un mais, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, nous avons alors une nouvelle identité. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés d'une identité en Adam, le premier être humain, à une identité nouvelle en Christ. Et c'est ce que nous avions vu cette fois-ci dans la prédication du 1er février. Et notamment, nous avions parcouru un texte dans Romains, chapitre 5, les versets qui sont là, versets 15 à 21, où Adam et Jésus sont présentés comme deux chefs, chacun étant le chef d'une humanité différente. Adam est le chef de l'ancienne humanité et Jésus le chef de la nouvelle humanité. En venant dans le monde, nous sommes pécheurs et ça c'est un héritage que nous avons de par notre union en Adam. Nous existons en référence à Adam. Mais, le jour où nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, nous quittons cette identité en Adam pour endosser une nouvelle identité, celle d'être en Christ. Nous sommes alors unis à Christ, unis à Jésus-Christ par la foi. La Bible parle de la nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ. Et nous avions alors lu aussi ce texte dans Romains, chapitre 6, les versets 3 à 14, parce que ce passage nous aide à prendre conscience de cette nouvelle identité et aussi nous aide à l'expérimenter au quotidien. Parce que, au fond, prendre conscience de cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Aux questions qu'il y avait dans la diaporama précédente, Jésus est la réponse. En Christ, je suis aimé. En Christ, je suis important. En Christ, je suis compétent. En Christ, je suis sauvé et non pas condamné. Jésus-Christ est la réponse à notre quête d'identité. Être uni à Jésus-Christ par la foi donc, que nous plaçons en lui, ça change tout. Nous avons une nouvelle identité en lui. Ceci étant, ça peut paraître un peu idyllique de dire les choses comme cela, même s'il faut les dire, Parce que dans la réalité, on peut se poser la question, est-ce que c'est aussi simple que cela ? Il y a une réalité face à laquelle chaque chrétien se trouve, c'est la réalité du péché dans notre vie. C'est une chose de dire que je suis uni à Jésus-Christ par la foi, mais comment est-ce que cela s'articule avec le fait qu'il y a cette réalité du péché dans ma vie ? Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous le voyez dans la diapo, nous avions parcouru les textes, en tout cas quelques versets, dans Romains chapitre 5, dans Romains chapitre 6. Et qu'est-ce qu'il y a après Romains chapitre 5 et Romains chapitre 6 ? Il y a Romains chapitre 7. Alors, lisons Romains chapitre 7. Et nous allons le faire section par section, parce que il y a quand même 25 versets, donc on va le faire en quatre parties. Tout d'abord, dans le texte, et la traduction de ce matin, c'est la colombe. D'abord, les versets 1 à 6 ici. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Le régime de la loi. Rien à voir avec les bols alimentaires, alimentation, etc. Le régime de la loi, c'est la situation de l'homme qui est livré à lui-même et qui, pour être sauvé, doit accomplir la loi et toute la loi de Dieu. Or, ce texte de Romains 7 et toute la loi et toute la lettre de Paul aux Romains nous montrent que c'est impossible d'accomplir toute la loi de Dieu. Le raisonnement de Paul dans ces six versets est le suivant. Et il est très simple en fait. Quand on est vivant, on peut être soumis à une loi. Et quand on meurt, on n'y est plus soumis. Quelque part, c'est logique. Et il illustre ce principe avec l'image de la femme mariée. La mort du mari met un terme aux obligations de la femme envers le mari. Et bien de la même manière, de par notre union à Jésus-Christ, nous sommes morts au régime de la loi. La mort vient mettre un terme aux obligations qu'on avait par rapport à la loi de Dieu. Et nous sommes nés à une vie nouvelle en Christ. Tout comme la femme dont le mari est mort peut se remarier, eh bien, nous aussi, nous ne sommes plus liés à la loi, mais nous appartenons à un autre dont il est dit ici, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Nous appartenons à Jésus-Christ. Le verset 5 décrit notre vie avant la conversion, lorsque nous vivions selon la chair, sous son emprise. Et chez Paul ici, la chair, ça désigne la condition de l'homme sans Dieu. L'homme qui est perdu, qui est soumis à ses mauvais penchants, à ses passions, qui œuvre dans son corps pour le faire porter toujours et toujours plus de fruits du péché, qui le conduit à la mort. Et le verset 6 vient établir un contraste avec ce verset 5. Nous sommes morts pour ce qui nous concerne, ce régime de la loi dont nous étions jusque-là captifs. On ne pouvait pas s'en défaire nous-mêmes. Mais la mort du Christ nous a rendus libres, la liberté dont on a parlé tout à l'heure, nous a rendus libres à l'égard de la loi de Dieu et nous ne devons plus rien à la loi dans la mesure où Jésus-Christ a parfaitement satisfait aux exigences de la loi et il l'a fait pour nous à notre place. Et aussi Jésus-Christ a payé sur la croix notre condamnation, cette condamnation que nous méritions parce que justement nous ne pouvions pas accomplir la loi et la loi nous amenait toujours plus à pécher et ainsi de suite. Cette condamnation a été payée. Ceci étant dit, nous avons des obligations envers Dieu. En effet, nous sommes libres à l'égard de la loi, mais en revanche, nous sommes libres de servir Dieu. La liberté, c'est une liberté pour servir celui à qui nous appartenons dorénavant. Et donc, en Christ, et c'est le premier enseignement avec ce texte, en Christ, nous sommes morts à la loi de Dieu. Deuxième texte, on va voir que en Christ, la loi de Dieu, cependant, elle demeure bonne. Regardons ce que dit Paul dans la deuxième section de ce chapitre 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non, bien sûr que non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ? Certes non, bien sûr que non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. La question qu'on se pose en lisant ce qu'il y avait précédemment, c'est est-ce que la loi est mauvaise finalement ? Est-ce que même la loi est péché ? Et Paul donc pose la question, il nous devance et il nous dit mais non, bien sûr que non, la loi n'est pas péché. La loi elle sert à deux choses, elle sert à nous révéler le péché qu'il y a en nous, avec le verset 7 notamment, et dans les versets suivants, elle nous montre notre incitation à commettre le péché. C'est le péché qui est dans mon cœur, qui utilise le commandement, la loi, pour ensuite me faire pécher. Il me fait faire en fait le contraire de ce que la loi a pour but de nous faire faire. Et Paul ici s'appuie sur son expérience avant, quand il était avant d'être chrétien. Il s'appuie sur son expérience qui est en même temps la nôtre, car qui ne se reconnaît pas dans ces versets ? Et de plus, il n'a pas pris n'importe quel péché. Qui peut dire qu'il n'a jamais convoité ? Nous avons tous expérimenté à un moment ou à un autre la convoitise. Et c'est pour cela que Paul conclut ici en disant que les commandements de Dieu sont bons, sont saints, justes et bons pour nous, comme il le dit au verset 12. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, il sait que c'est pour notre bien, c'est utile pour nous. Ce passage montre que la loi de Dieu sert à identifier ce mal qu'il y a en nous. Et cette prise de conscience nous pousse ou devrait nous pousser à reconnaître notre besoin constant du salut qui nous est offert par Jésus-Christ. Et donc, plutôt que de rejeter la loi, nous devrions l'utiliser pour approfondir la connaissance de notre condition et pour nous tourner toujours plus vers la solution, c'est-à-dire notre Sauveur Jésus-Christ. Car il est la solution au péché. En Christ, donc, la loi demeure bonne. Troisième enseignement avec le troisième texte que nous allons lire maintenant, c'est que en Christ, nous luttons intérieurement. J'ai envie de dire, même étant unis à Christ, nous luttons intérieurement avec le péché. Lisons les versets 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Qui est la personne désignée là par ce que Paul dit dans cette section? Et peut-être que cette question vous étonne parce que on pense naturellement qu'il s'agit de Paul ici, mais pourtant cette description que Paul fait de cet homme qui semble un peu divisé là, il est divisé en lui-même entre le fait qu'il veut faire du bien mais il ne le fait pas, et le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Il y a une tension ici. Et en fait, cette question de qui est désigné par ce « je » là, c'est une question qui est un champ de bataille pour les interprètes depuis des siècles et des siècles. Et il y a deux principales interprétations. La première, c'est que Paul parlerait d'un non-chrétien. Et la deuxième, c'est que Paul parlerait d'un chrétien. Et les deux interprétations ont chacune des arguments, et vraiment des arguments qui ont du contenu, hein. Et sans en faire toute la démonstration maintenant, je pense qu'on peut raisonnablement dire que Paul parle bien d'un chrétien ici en s'impliquant personnellement en disant « je ». « Je ». C'est bien lui qui parle en tant que chrétien dans ce texte. Paul est en train de montrer que même en tant que chrétien, nous péchons encore et nous n'arrivons pas à nous défaire totalement du péché. Paul nous fait part ici de cette, le mot n'est pas trop fort, de cette lutte intérieure entre vouloir le bien et puis finalement être amené à faire ce qui est mal, notamment dans les versets 17, 18 et 19. Paul reconnaît que sa chair est irrémédiablement mauvaise, même après la conversion, même après cette nouvelle naissance, même après le fait qu'il est en Christ dorénavant. Il a son identité en Christ. Et reconnaître cela, reconnaître cette tension, cette lutte intérieure, c'est déjà un premier pas dans la croissance, dans une vie de plus en plus sainte. C'est une prise de conscience par laquelle il faut passer. En tant que chrétiens, nous aussi, nous vivons cette tension. Nous sommes orientés vers le bien. La réorientation de notre volonté, elle est bien réelle. Dieu agit en nous et il nous fait penser, vouloir différemment, de telle sorte que notre désir, au plus profond de nous-mêmes, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ou alors, c'est qu'on n'est pas chrétien. Mais c'est justement parce qu'on est chrétien, parce qu'il y a cet Esprit de Dieu qui agit en nous, qu'on a envie d'accomplir cette volonté. Mais en même temps, on est tenté et parfois nous chutons, nous péchons. Et alors aussi, ce qui fait une grande différence, contrairement aux personnes non chrétiennes, c'est que nous avons à cœur de nous repentir, de confesser cette faute, de l'identifier, de la nommer, de la présenter au Seigneur, de la confesser, et aussi de nous en repentir, de changer de comportement. Et c'est aussi quelque part ce qui prouve qu'il y a bien cette réorientation fondamentale au plus profond de notre être. Le Nouveau Testament insiste à bien des égards sur l'aspect du déjà du salut. Le salut, il nous est acquis, nous sommes sauvés, c'est une réalité. Nous avons été sauvés. Jésus a tout accompli pour que ce soit une réalité. Et en même temps, le Nouveau Testament insiste sur l'aspect pas encore pas encore du salut. Nous serons sauvés pour l'éternité lors du retour de Jésus. Nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Nous sommes sauvés, mais il y a encore des choses en nous qui doivent être changées, travaillées. Et tout cela trouvera un point final au retour de Jésus. Et dans l'intervalle, on est en chemin. On progresse, on avance, on marche, on tombe, on se relève, et ainsi de suite. Et en fait, nous vivons sans cesse cette tension entre le déjà et le pas encore. On est sauvé, mais on ne voit pas toute la réalité de cela dans notre vie. Et donc, oui, même en Christ, nous luttons intérieurement. Avant de passer au quatrième enseignement, que je garde exprès pour la fin, j'aimerais qu'on voit maintenant trois applications. Première application, ne culpabilisons pas. Il est tellement tentant de se dire ben voilà, je suis encore tombé, j'y arriverai jamais, je pêche tout le temps, je suis un moins que rien. J'aimerais vous dire une chose, penser comme ça, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge du diable. C'est un mensonge de l'accusateur, du diable, de l'ennemi. Nous étudions le livre des Proverbes en ce moment dans les rencontres de quartier tout au long de l'année. Voici ce que nous lisons dans Proverbes 24, versets 15 et 16. « Ne tends pas méchamment des embûches dans le domaine du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, car à cette reprise le juste peut tomber et il se relève. » Mais les méchants sont précipités dans le malheur. On peut noter ici, là, le juste tombe, tout comme le méchant. Ça arrive à tous, même aux justes. Même le Nouveau Testament, d'ailleurs là on est dans l'Ancien Testament avec le livre des Proverbes, on pourrait dire on est avant la croix de Jésus-Christ, oui, mais même le Nouveau Testament nous dit, nous met face à notre péché en tant que chrétien, c'est une réalité. En tant que juste, justifié aux yeux de Dieu, oui, nous péchons encore. Et le juste peut tomber une fois, deux fois. Le texte là parle même de sept reprises. Comme pour dire que cela peut arriver de nombreuses fois. Le méchant, quant à lui, il semble déjà à terre. Et l'auteur de ce proverbe ici fait cette distinction parce que Pour tomber, il faut être debout. Pour chuter, il faut être debout. Il faut être en marche, il faut être en mouvement. Le méchant, lui, il n'est pas debout, il est précipité dans le malheur, comme dit le verset 16. Il se complaît dans son éloignement de Dieu, il n'en a que faire de Dieu, finalement. Ça, c'est le méchant. Mais le juste, par contre, il est poussé à la chute parce qu'il se tient debout. Et il y en a un qui cherche à mettre des bâtons pour le faire chuter. Quand nous commettons un péché, ça nous met en peine, c'est normal, parce qu'on a offensé Dieu, on a la conscience d'avoir offensé Dieu, mais en même temps, c'est le gage que quelque chose est en train d'agir en nous, pour nous faire nous relever et continuer, et pour ne pas finalement culpabiliser ou baisser les bras. Donc, ne culpabilisons pas, ne baissons pas les bras face à notre péché. Deuxième application, persévérons dans nos efforts. C'est une réalité, nous péchons encore, même en tant que chrétiens, mais lorsque nous tombons, la tentation pourrait être de rester à terre. De toute façon, je ne m'en sortirai pas. Je tomberai toujours dans ce même péché. J'y arriverai pas. Et donc on baisse les bras. Mais justement, non. Persévérons dans nos efforts. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on reste à terre. Dieu n'est pas l'accusateur. L'accusateur, c'est Satan. Satan, ça veut dire accusateur, hein, d'ailleurs. C'est celui qui accuse. Satan, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun qui veut dire l'accusateur. Il nous accuse, il nous fait culpabiliser. Par contre, Dieu, il va nous tendre la main pour qu'on se relève une fois de plus et une fois de plus pour qu'on se remette en marche. C'est un petit peu comme un petit enfant qui apprend à marcher. Il va tomber une fois, deux fois, plein de fois, mais il va se relever, il va persévérer. Il va se relever, il va persévérer, aidé par ses parents qui lui auront tendu la main pour l'accompagner, pour lui faire faire un pas de plus, pour l'aider à persévérer dans ses efforts. Ça n'est pas facile. Ça demande de la persévérance. Ça demande des efforts. Et le Nouveau Testament insiste à bien des égards sur l'importance de faire des efforts et de persévérer. Je fais qu'afficher quelques références ici. Par les paroles de Jésus en Luc, mais aussi beaucoup dans Paul, dans l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans l'auteur Pierre, dans ces deux lettres, pour ne mettre que quelques références, où il est question justement de faire des efforts, de ne pas se relâcher dans les efforts à fournir. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, Dieu petit à petit réoriente notre volonté, mais c'est à nous de faire ensuite. Les deux vont ensemble. Dieu produit en nous le vouloir et le faire, mais c'est à nous d'agir. C'est à nous d'accomplir sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui agit à notre place. On a à faire notre part et Dieu fait la sienne. Donc, persévérons dans nos efforts. Deuxième application. Et puis la troisième application, reposons-nous sur l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Alors là, ça peut paraître super paradoxal. Je viens de dire de persévérer dans les efforts, et après je dis qu'il faut se reposer. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, puis c'est pas moi qui l'invente de toute façon. C'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit. Et qui le dit justement dans la dernière section qu'on n'a pas vue encore. Et je vous propose de lire maintenant donc les versets 21 à 25 de Romains chapitre 7. Je trouve, donc c'est Paul qui s'exprime ici, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, et le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » On retrouve ici dans les trois premiers versets, 21, 22, 23, la description de cette lutte que Paul exposait dans la section précédente. Cette lutte intérieure, bien que nous soyons libres de la condamnation de la loi et que nous sommes passés sous le régime de la grâce de Dieu, eh bien nous continuons à pécher. On l'a vu au verset 17, on l'a vu au verset 20 et on le revoit encore ici. Nous prenons profondément conscience de combien nous sommes finalement loin de la norme absolue de Dieu. Dieu a des préceptes, des lois qui sont au-delà de nos standards à nous. C'est inévitable qu'on pèche, même en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Paul s'écrit du verset 24, « Mais malheureux qui je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et la réponse vient immédiatement après. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Encore une fois, Jésus-Christ est la réponse. Il est celui qui a tout accompli. Tout ce que Paul a développé dans ce qui précède, avec la présentation de sa lutte intérieure et tout ce qu'on a vu là, eh bien ce chapitre 7 se termine avec ce cri de victoire au verset 25. C'est Jésus-Christ qui nous délivrera de cette condition humaine misérable. En Christ, nous avons la victoire. C'est le dernier enseignement de Romains 7. En Christ, Nous avons la victoire et c'est parce que nous avons la victoire en Christ que nous pouvons nous reposer sur l'œuvre que Jésus a accomplie. Il peut nous arriver en tant que chrétiens de ne pas progresser dans la sainteté. Et il y a bien des raisons à cela. Souvent, l'une d'elles, c'est parce que nous comptons trop sur nous-mêmes. Parfois même, en comptant trop sur nous-mêmes, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et des forces que nous avons pour lutter. Et nous ne crions finalement au secours que lorsque nous prenons conscience de notre propre et véritable misère. Et cela nous conduit à finalement à un moment ou à un autre à désespérer de nous-mêmes, un peu comme Paul avec ce verset 24, et de crier à Dieu, mais la victoire, elle est déjà accomplie sur la croix. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La solution n'est pas en nous, la solution, c'est Jésus-Christ qui l'a mise en œuvre et accomplie, réalisée parfaitement. Et cette lutte intérieure nous rappelle que la bataille contre le péché ne se joue pas seulement dans notre volonté, même si notre volonté, notre détermination à lutter sont importantes, je ne suis pas en train de dire le contraire. Et je nous renvoie d'ailleurs à ce qu'on a vu pas plus tard que ce mois-ci dans les rencontres de quartier sur le livre des Proverbes avec la thématique du cœur et ses désirs. Mais la bataille contre le péché se vit aussi, et j'ai envie de dire aussi et surtout, dans la victoire que Jésus-Christ a accomplie pour nous en mourant sur la croix et en ressuscitant. Jésus a mené une vie juste, parfaite. Il a accompli la loi de Dieu, parfaitement. Il n'a jamais péché. Il a porté notre condamnation en venant mourir sur la croix. Il n'avait pas péché lui-même. Il a pu donc prendre nos fautes à nous. Il a accepté de devenir péché, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, pour nous en venant mourir sur la croix, en portant notre condamnation. Mais la mort ne pouvait le retenir captif. Et Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il nous donne une vie nouvelle par laquelle nous vivons dorénavant pour lui. Et c'est tout ce qu'on a vu, je vous renvoie à ce qu'on a vu avec Romains 6, qui est juste avant ce Romains 7 ici. Tout ça, Romains 5, Romains 6, Romains 7, et même si on voulait continuer avec Romains 8, tout ça, ça fait sens, ça fait bloc ensemble, ça a du sens. Être conscient de cette double réalité, que d'un côté il y a la réalité du péché et de la lutte contre le péché dans notre vie, et de l'autre côté la réalité de la victoire de Jésus-Christ sur la croix, ça nous aide à ne pas perdre espoir dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Parce que en Christ, nous avons la victoire et nous pouvons nous reposer sur l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Cette œuvre de salut, cette œuvre par laquelle nous sommes sauvés. C'est ce que veut dire cette œuvre de salut. Nous sommes sauvés de la condamnation de nos péchés. Et donc ce texte de Paul aux Romains ici nous aide à naviguer dans cette lutte, dans la réalité du péché dans notre vie, contre lequel nous luttons, en nous rappelant que nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ qui nous permet de vivre dans la victoire, et ce, malgré les échecs que nous pouvons avoir. Cette lutte contre le péché fait partie de notre condition humaine qui nous pousse à dépendre toujours plus, toujours plus, toujours plus de Jésus-Christ et de sa grâce. Et je vous invite à dire cela avec le chant qui va suivre, ce sera le dernier chant de notre culte ce matin, et je vous invite à vous lever, nous allons chanter « C'est par ta grâce seule que je suis sauvé ».